Alors, vraiment, toutes mes excuses, même si je n'y suis pour rien, je me suis levé à 4h30 pour prendre le train de 5h27 qui aurait dû m'amener Gare de l'Est à 6h11. Puis j'aurais pris un métro et puis j'aurais pris mon train Gare de Lyon pour Chambéry à 6h45 et je serais arrivé à 9h30. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis bien levé à 4h30. Le train est bien parti à 5h27, mais tout d'un coup, il s'est arrêté en pleine voie. Et on nous a annoncé de gros problèmes sur la voie. Et ils n'ont pas pu nous dire combien de temps ça allait durer. Et donc là, j'ai désespéré un peu. Je regardais les trains. Je savais que je raterais le train que j'avais pensé prendre. Mais il y en avait après, bah, je les ratais. Et puis finalement, le train est reparti. Et j'ai pu prendre le train de 9h45 et vous rejoindre le midi. Toutes mes excuses en particulier à ceux et celles qui ont dû permuter. Hein. Je remercie vraiment les collègues qui devaient parler cet après-midi d'avoir accepté de parler ce matin. J'espère que ça n'a pas trop dérangé l'ordonnancement de cette journée. Alors, je vous dois, allez, trois aveux. Le premier, je suis philosophe. N'ayez pas peur. Le deuxième, je suis bien fatigué. Le troisième, je suis cependant bien heureux. Un petit mot sur chacun de ces trois aveux me permettra d'introduire mon propos. Oui, je suis philosophe, enfin j'essaie de l'être tout du moins, et je m'interroge toujours sur ma légitimité à intervenir dans un colloque comme le vôtre. Au fond, je m'interroge toujours sur ma légitimité à parler du soin, moi qui ne suis pas soignant. S'il est une attitude qu'ont trop souvent les philosophes qui s'occupent d'éthique, qui m'est assez désagréable, cette attitude des philosophes qui, au fond, sans être soignants, viennent dire aux soignants ce qu'ils doivent faire. À ce moment-là, ils font moins de l'éthique que de la morale, vous voyez? Alors je ne dis pas qu'on n'ait pas besoin de morale, mais je crois qu'on a encore plus besoin d'éthique, car si la morale nous dit ce qu'il faut faire, l'éthique cherche à faire en sorte que ce qui doit être soit. C'est compliqué déjà, hein, c'est du lourd. Mais je vais expliquer tout cela. Et ce que je veux dire par là, c'est que on ne fait pas de l'éthique sérieuse si on n'analyse pas d'abord les conditions concrètes dans lesquelles travaillent les soignants. Oui, je m'interroge toujours sur ma légitimité à intervenir dans un colloque sur le soin, moi qui ne suis pas soignant. Et puis je me rassure un peu quant à ma légitimité, parce que je suis professeur d'université, je dirige un master à l'université Gustave Eiffel, mais c'est un master de philosophie un peu singulier. On n'y accueille pas, comme dans les masters traditionnels, des jeunes qui, après qu'ils ont réussi leur licence, viendraient faire un master pour ensuite, vous savez, présenter les concours d'entrée à la fonction publique, le CAPES ou l'agrégation. Non, nos étudiants sont des professionnels du soin, comme la plupart d'entre vous. Dans ce master, nous accueillons en formation continue des professionnels du soin, donc des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des kinésithérapeutes, assistantes sociales dans le monde hospitalier, directrices d'EHPAD, kinésithérapeutes, ostéopathes, vous voyez, des professions très très diverses. Nous accueillons des professionnels du soin qui viennent faire de l'éthique et de la philosophie avec nous. Et au fond, si j'ai tout de même, moi qui ne suis pas soignant, quand même un peu connaissance du monde du soin, c'est grâce à mes étudiants, grâce à nos étudiants, hein, qui font toujours leur mémoire, qui basent toujours leur mémoire sur des situations cliniques. Et c'était mon premier aveu. Je sais que la philosophie, des fois, ça fait un peu peur. Si vous avez un bon souvenir de la philosophie, j'espère ne pas vous décevoir. Et si vous avez un mauvais souvenir d'elle, j'espère vous réconcilier un peu avec elle. Mon deuxième aveu était que je suis bien fatigué. Alors, le faire part d'une difficulté personnelle pourrait vous paraître une incongruité, voire une impudeur, mais non. Si je parle de ma fatigue, c'est au fond pour vous parler de la vôtre. Car justement, alors que celui qui fait de la morale ne s'occupe pas des conditions concrètes dans lesquelles se trouvent les soignants, celui qui fait de l'éthique doit s'en occuper. Et ce dont me parlent la plupart de mes étudiants et de mes étudiantes, c'est de leur fatigue, la fatigue des soignants, la fatigue des soignantes. Et je veux dire par là que le rapport que vous avez à votre patient n'est peut-être pas exactement le même un beau matin de mai quand vous êtes en pleine forme et un triste après-midi pluvieux de novembre quand vous êtes épuisé. À titre d'introduction, je vous demande d'imaginer deux journées un peu prototypiques du soignant ou de la soignante, bon, parce que majoritairement, elles sont des femmes, pour justement essayer de comprendre ce que c'est que l'éthique. Ce jour-ci, ce jour-là, Ce jour-ci, notre soignante s'est réveillée en pleine forme. Elle avait très bien dormi. Elle ouvre la fenêtre et elle voit que le temps est exactement ce qu'elle avait envie qu'il fût. Qu'il fait beau à Chambéry aujourd'hui. Le petit déjeuner avec son compagnon ou sa compagne se passe dans un climat d'harmonie. Hein. Tu m'envoies des textos, mon amour. Il y a un côté ami ricoré. Elle se prépare pour se rendre dans le lieu où elle travaille. Il fait beau. Elle vit l'existence comme un cadeau. Un inconnu lui offre des fleurs. Elle arrive dans le lieu où elle travaille. On lui fait compliment sur la manière qu'elle a d'exercer son métier. Tu sais, le patron dit beaucoup bien de toi. Ah, c'est vrai. Elle aime son métier, s'y sent reconnue. Et elle a rendez-vous avec un patient qui, bien sûr, souffre, sinon il ne serait pas là, mais qui, malgré sa souffrance, a assez de force, assez d'énergie pour dire sa gratitude, sa reconnaissance. « Oh, j'aime tellement quand c'est toi qui viens. » « Oh ben non, je ne fais que mon métier. »« Oh non, non, t'es mon petit rayon de soleil, c'est tellement bien de te rencontrer. »« C'est pas comme l'autre. » Et puisqu'elle n'aime pas sa collègue, elle se paye cette joie mauvaise, ce qu'en allemand on appelle « die Schadenfreude », d'être la préférée. Quand la relation soignant-soigné, c'est un beau matin de mai, la rencontre entre une forme du côté du soignant et une gratitude du côté du soigné, mais là, il n'y a aucun problème pour être à la hauteur des grands principes de l'éthique du soin. Mais ça, c'était ce jour-ci. Il y a aussi ce jour-là où notre soignante s'est réveillée fatiguée, encore plus fatiguée qu'elle ne s'était couchée, car elle a connu des insomnies, vous savez, ce que Baudelaire appelle ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. C'est dans le poème « Réversibilité » où Baudelaire s'adresse à l'ange et dit « Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse et ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse ?» Alors apparemment pas. Elle a eu des moments d'insomnie, elle s'est rendormie un peu, mais elle se réveille aussi fatiguée qu'elle ne s'était couchée, même peut-être plus encore. Elle ouvre la fenêtre et elle voit que le temps n'est pas du tout ce qu'elle aurait aimé qu'il fût. Il fait un temps épouvantable à Chambéry aujourd'hui. Dès le petit déjeuner, il y a des tensions avec son conjoint ou sa conjointe. « Quoi, c'est pas vrai, ta mère vient encore dimanche. Et toi, ton frère qui n'apporte jamais aucun cadeau. » Elle va au miroir et ma foi ne s'y aime guère. C'est Cocteau qui disait « Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. » Mais les miroirs ne réfléchissent pas toujours avant de réfléchir. Et cela n'est pas genré, hein, homme ou femme. C'est toujours assez désagréable de ne pas vraiment s'aimer dans le miroir. Elle est fatiguée, d'une mauvaise fatigue. Elle vit la vie comme un fardeau plutôt que comme un cadeau. Elle sort dans les rues de la ville pour se rendre sur son long travail. Très vite, elle a affaire à ce que Jean Giono appelle le démon mesquin. Le démon mesquin, c'est tous les petits emmerdements de la vie qui, lorsqu'ils s'accumulent, fomentent une grande fatigue, une grande lassitude. Et par exemple, elle manque le bus de quelques secondes. Et cet imbécile qui m'a bien vu quand même dans le rétroviseur ne m'attend pas. Elle n'a pas pris de parapluie pensant qu'il ne pleuvrait pas. Il se met à pleuvoir. Les clés tombent dans la doublure du manteau, elle n'arrive pas à les récupérer. Elle arrive fatiguée sur le lieu de travail. On lui fait des reproches sur la façon qu'elle a de faire son métier. Vous n'avez pas bien encodé les actes. Hein. On ne mesure pas à quel point les tracasseries administratives pèsent sur le dos des soignants, leur donnant l'impression qu'on leur impose des tâches qui ne sont pas au cœur de leur métier. Voyez, hein. Elle est fatiguée d'une mauvaise fatigue et elle va rencontrer un patient qui n'est pas le patient reconnaissant ou gratifiant de la veille, mais un patient qui n'a d'autre manière de montrer sa souffrance que par l'agressivité. Attention, la souffrance ne légitime pas l'agressivité, hein. Mais ce qu'on ne saurait légitimer, on peut essayer de le comprendre. Comprendre sans légitimer. Je trouve très profond ce passage du dessin animé Kirikou, où, vous savez, Kirikou a enfin réponse à la question qu'il pose, pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante ? Pas si vous connaissez le dessin animé, ça raconte la vie d'un petit village africain tyrannisé par une méchante sorcière qui s'appelle Caraba. Et ce Kirikou, Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, Kirikou, ce petit Kirikou demande à tout le monde, pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante ? Personne n'a réponse à la question posée, jusqu'à ce que Kirikou retrouve son grand-père, qui lui va lui donner la réponse. « Grand-père, pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante ?» Réponse du grand-père, « Parce qu'elle souffre, Kirikou. » Vous savez, elle a une épine qui lui est enfoncée dans la nuque, qui l'a fait horriblement souffrir. Et puis on comprend à la fin du dessin animé, à mots couverts, ou plutôt à images couvertes, que peut-être elle a subi un viol collectif de par la part des habitants du village, voyez. Eh bien, quand la rencontre soignant-soigné, ça n'est pas un beau matin de mai, la rencontre entre une forme du côté du soignant et une gratitude du côté du soigné, mais un triste après-midi pluvieux de novembre entre une mauvaise fatigue du côté du soignant et une agressivité du côté du soigné, Ben, c'est beaucoup plus difficile, là, voyez, d'être à la hauteur des grands principes de l'éthique. Et on ne fait de l'éthique sérieuse que si précisément on s'occupe des jours où il est difficile d'être à la hauteur des grands principes de l'éthique, qui sont l'écoute, l'accueil, l'empathie, la sollicitude. Hein. C'est essentiel. Vous voyez, si j'étais moraliste, je vous dirais, vous devez être empathique, vous devez avoir de la sollicitude, vous devez écouter, vous devez prendre le temps. Mais je ne suis pas un moraliste, j'essaie de faire de l'éthique. Et faire de l'éthique, c'est essayer de s'intéresser d'abord à ce qui, dans le terrain, sur le terrain, dans la vie quotidienne, rend difficile l'écoute, l'accueil, l'empathie, la sollicitude. Et ce que me disent mes étudiants, mes étudiantes, c'est que cette fatigue, bon, eh bien, parfois rend difficile, en effet, la réalisation des grands principes de l'éthique. C'était mon deuxième aveu. Mon troisième aveu, bah oui, je suis quand même très heureux, d'abord, d'être arrivé. Et puis, de vous rencontrer en chair et en os, ça a été dit par les intervenants tout à l'heure. À un certain moment, les organisateurs de cette journée m'ont proposé de faire en visio. Et je voyais ça, bah, si le train part pas, peut-être que je vais faire une visio. Et finalement, le train est parti et je vous rencontre en vrai. Rien ne remplace la rencontre incarnée. Ça a été dit et je le redis. Donc, je suis content de ça. Et puis, enfin, je suis content de pouvoir vous parler de l'attente. Parce qu'il me semble que c'est un sujet très peu travaillé, alors que le système hospitalier, le monde hospitalier est un lieu où l'attente est une donnée fondamentale, vous voyez. Voilà, c'était mon introduction. Et je voudrais tout d'abord rappeler que pour les anciens, pour les Grecs et pour les Romains, disposer de son temps, être maître de son temps, c'était l'indice de la liberté, le critère de la liberté. L'homme libre, le citoyen, hein, au contraire de l'esclave, eh bien, était celui qui disposait, comme il l'entendait, de son temps. Vous voyez, et Sénèque, dans De la brièveté de la vie, dit que la vie n'est pas brève pour ceux qui savent prendre le temps, pour ceux qui sont maîtres de leur temps. Vous voyez, et il ajoute que même les hommes libres, même les citoyens, hein, eh bien, ne sont pas forcément, ne disposent pas forcément de leur temps si, par exemple, ils sont pris dans des passions, s'ils sont pris dans des affaires qui leur prennent tout le temps. Être maître de son temps, disposer de son temps, c'était le critère de la liberté. Il y avait des mots en grec ou latin pour dire ça. Ça s'appelait en grec la scolae, qui a donné école, et en latin l'osium, qui a donné le loisir. Hein. La scolae ou l'otium, c'était ce que pouvait faire l'homme libre, c'est-à-dire la libre disposition de son temps, vous voyez, hein. Or, il me paraît que, à l'hôpital, ces trois personnages auxquels je veux rendre hommage, dont je veux parler, que sont le patient, le soignant, le patient, le soignant et le proche du patient, eh bien, pour des raisons différentes, ne disposent pas vraiment de leur temps. Hein. Je vais parler de ces trois personnages en une sorte de triangle. Hein. Je vais parler du temps du patient, du temps du soignant et du temps du proche du patient. Et ce que je veux démontrer, c'est que malheureusement, la plupart du temps, aucun de ces trois n'est vraiment maître de son temps. Tous les trois souffrent d'une sorte de pathologie de la temporalité, vivent quelque chose comme le sentiment d'une aliénation temporelle pour des raisons complètement différentes, n'habitent pas le temps de la même manière. Et ma crainte, c'est que ces trois personnages forment les trois sommets d'un triangle qui ressemblerait au triangle des Bermudes, où quelque chose de l'humanité, quelque chose de la compréhension se perdrait, vous voyez, hein. Quel est le temps du patient? Quel est le temps du soignant? Quel est le temps du proche du patient? Eh bien, le temps du patient, c'est d'abord et avant tout le temps de l'attente. Le temps du soignant, c'est d'abord et avant tout le temps de l'affairement. Et le temps du proche, c'est tantôt le temps de l'attente, tantôt le temps de l'affairement. Et quand on attend, on n'est pas vraiment maître de son temps. Quand on est affairé, obligé d'enchaîner les tâches, on n'est pas vraiment maître de son temps. Quand on oscille entre des moments où on est affairé pour s'occuper de son proche malade et des moments où on attend avec lui, on n'est pas vraiment maître de son temps. Eh bien, après que j'aurai parlé de cette discordance des temps, de cette discordance des trois temporalités, je chercherai avec vous les moyens d'essayer de tout de même créer quelque chose comme une concordance des temporalités. Hein. Comment faire pour que ces trois personnages finissent par habiter un temps qui serait un peu le même, alors que trop souvent, le temps de l'attente, le temps de l'affairement, le temps de l'oscillation entre attente et enfermement, eh bien, ça fait que ces trois personnages ne se rencontrent pas vraiment. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Hein. M'interromperiez au besoin par la force. Alors, voilà mon plan, les trois temps, et puis ensuite, après que j'aurai dit la discordance des temps, comment faire pour essayer de créer quelque chose comme une concordance des temps. Évidemment, tout cela vient, tout cela part d'une donnée toute simple, qui est que nous n'habitons pas le temps de la même manière. Hein. Le temps ne passe pas à la même vitesse pour tous les êtres humains. Et là, il faut se référer au philosophe Bergson, qui distinguait entre deux types de temps, le temps mathématique ou le temps des horloges, et le temps psychologique ou durée. Et que nous dit Bergson dans les données immédiates de la conscience ou dans Matière et mémoire, des livres beaux, pas si difficiles que ça à lire. Je me fais un peu illusion, si je pense que dès ce soir vous allez vous ruer sur Bergson, mais enfin, ça fait partie de ces philosophes qui n'emploient pas trop de jargon et qui partent de réalités très humaines. Enfin. Eh bien, que nous dit Bergson? C'est que le temps mathématique ou le temps des horloges, c'est le même pour tout le monde. Hein? Votre trotteuse trotte à la même vitesse que la mienne. Le temps des horloges, c'est un temps parfaitement universel, absolu, régulier et uniforme. Régulier parce que pour l'horloge, une demi-heure est toujours égale à une demi-heure. La trotteuse trotte, elle ne galope jamais, elle ne va pas au pas, ou alors si la trotteuse se met à galoper ou se met à aller au pas, ou carrément s'arrête, eh bien, votre montre n'est plus une montre. Parce qu'une montre, ça doit montrer l'heure. Hein. Ça, c'est le temps mathématique ou le temps des horloges. Mais il y a aussi, nous dit Bergson, la durée ou le temps psychologique. C'est le temps tel que nous le vivons. Et ce temps-là n'est pas le même pour tous. Hein. Ce temps-là est un temps relatif, et non pas absolu, hein, particulier et non pas universel, hétérogène et non pas homogène, inégal et non pas égal. Hein. C'est le temps tel qu'on le vit, et ben vous savez très bien qu'il est des demi-heures qui passent très vite et des demi-heures qui passent très lentement. Un film passionnant peut durer 3 heures, on ne voit pas le temps passer. Un film très ennuyeux peut ne durer qu'une heure et demie, on a l'impression que cette heure et demie dure très très longtemps, voyez. Hein? Donc le temps n'est pas le même pour tous les individus. Et voilà pourquoi, quand on veut donner une image de ce que c'est que le passage du temps, on a raison de citer le poème d'Apollinaire « Sous le pont Mirabeau ». « Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et mes regrets, faut-il qu'ils m'en souviennent ?» Le passage de l'eau sous le pont, c'est une bonne métaphore du temps. Ça se dit d'ailleurs même dans la vie la plus quotidienne. Hein, de l'eau a coulé sous les ponts. Quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, vous dites que de l'eau a coulé sous le pont. Oui, le temps s'écoule comme l'eau, comme la Seine sous le pont Mirabeau. Mais pourquoi ? Parce que si vous allez voir comment le temps coule, enfin la Seine coule sous le pont Mirabeau, vous allez voir que ça ne coule pas régulièrement. Il y a des endroits où ça va très très vite. C'est des petits filets qui foncent. Et puis il y a des endroits où c'est bloqué par des branches, voyez. Eh bien oui, il ne faut pas dire que le temps coule, il faut dire que le temps percole. J'essaie de remettre à la mode ce verbe qui n'existe plus, percoler, qui n'existe plus qu'à travers le percolateur. Et en effet, regardez comment le café passe par le percolateur. Vous verrez qu'il ne passe pas comme un fluide régulier. Parce que le percolateur, comme tout filtre, impose l'hétérogénéité de ses pores, P-O-R-E-S, au liquide qui y coule. Et voilà pourquoi il y a des endroits où ça coule très vite et des endroits où ça ne coule plus, vous voyez. Hein? Percoler, c'est couler à travers. Le temps ne coule pas, le temps percole. Et si vous voulez méditer sur le temps, allez voir comment la Seine passe sous le pont Mirabeau, ou allez dans un café et regardez comment le café coule à travers le percolateur. Vous pouvez faire les deux à la fois. Vous allez dans un café juste à côté du pont Mirabeau, et là, vous saurez en effet ce que c'est que le passage du temps. Donc, c'est parce que le temps ne passe pas à la même vitesse pour tous les êtres humains. Hein. Il est relatif à nos états d'âme. Il est particulier à chaque individu. C'est parce que le temps ne passe pas à la même vitesse pour tous les êtres humains que dans une réunion d'êtres humains, il y a toujours la possibilité de ce que j'appelais plus haut une discordance des temps. Une discordance des temps. Hein. Et par exemple, il est évident que le temps ne passe pas à la même vitesse pour celui qui attend et pour celui qui fait attendre. Hein. Et en effet, voilà mon inquiétude que le patient, le soignant et le proche du patient ne se trouvent aux trois sommets d'un triangle qui ressemblerait au triangle des Bermudes, où quelque chose de la communauté humaine se perd, hein, parce que ces trois personnages-là vivent le temps de manière complètement, complètement différente. Tant de l'attente, tant de l'afferment, tant de l'oscillation entre l'attente et l'afferment. Alors commençons par évidemment le personnage central de la pièce, à savoir le patient, pour remarquer que être patient, c'est souvent être voué à l'attente. On attend le retour de la douleur, on attend l'action du médicament, on attend le rendez-vous, on attend dans la salle d'attente, on attend le diagnostic, on attend le pronostic. Or, quand on attend, on n'est pas maître de son temps. Il y a quelque chose comme le sentiment d'une aliénation temporelle. Hein. Comment ne pas éprouver le sentiment d'une aliénation temporelle quand on attend et pourquoi n'aimons-nous pas attendre, généralement? Eh bien, parce que l'attente nous voue à l'impuissance, à l'ignorance et à la passivité. C'est cette dimension d'impuissance, d'ignorance et de passivité qui fait que généralement nous n'aimons pas attendre. Alors en effet, impuissant. Quand j'attends, je n'ai pas la puissance, le pouvoir de faire que ça passe plus vite. Hein. Je suis voué à une forme d'impuissance. Ce qui est douloureux dans l'attente aussi, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. J'ai fait cette expérience-là. Le train s'arrête en pleine voie. Si très vite, le conducteur avait dit « Notre train est immobilisé pour 3 minutes 26 ou même pour 12 minutes 40 », eh bien là, j'aurais été très rassuré, hein, parce que j'aurais su combien de temps ça allait durer. Ce qui est pénible dans l'attente, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le statut de l'attente a changé dans les stations de métro parisiens, vous savez, depuis qu'il y a ces petits écrans qui vous disent « prochain train dans 2 minutes, prochain train dans 6 minutes ». Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas ça dans les stations de métro. Eh bien, l'attente était toute différente. Parce que si ça tardait, si le métro tardait à arriver, on commençait à s'angoisser. Hein. J'ai un rendez-vous amoureux très important et le métro n'arrive pas. Alors on tend l'oreille et puis tout d'un coup, c'est un autre métro qui vient. Quand on sait combien de temps ça va attendre, combien de temps ça va durer, l'attente se fait beaucoup plus douce. Hein. Et puis enfin, la passivité. Oui, on est voué à une forme de passivité. Vous connaissez cette scène. Lorsque vous êtes au supermarché, vous choisissez, enfin nous faisons tout ça, la queue dont nous pensons qu'elle est celle qui ira le plus vite. Et bizarrement, dès qu'on vient là, ça n'avance plus. Et vous êtes. Et pourquoi? Bah parce qu'il y a quelqu'un qui passe un temps fou à chercher ses pièces, et bon, ou alors le code, ça ne passe pas. Et donc vous avez l'impression qu'elle le fait exprès de prendre très lentement le téléphone, oui. Pour appeler Marie Bernadette qui va aller tout doucement. Bon. Et là, on a beau trépigner et dire « c'est pas possible hein. », on est voué à une passivité, à une ignorance et à une impuissance qui nous font souffrir. Hein. Ce qui nous font souffrir. Cette triple dimension de l'impuissance, de l'ignorance et de la passivité qui font de l'attente quelque chose de douloureux, qui donne l'impression justement qu'on n'est pas maître de son temps, qu'on souffre d'aliénation temporelle. Et surtout, quand on attend, on n'habite pas le présent. Attendre, c'est s'expatrier du présent. Car, là aussi, pour réfléchir sur l'attente, retournez dans le café que j'ai dit, là, à côté du pont Mirabeau, hein, et regardez les gens qui sont au café. Vous verrez tout de suite la différence entre les gens qui attendent et les gens qui n'attendent pas. Les gens qui n'attendent pas, qui n'attendent personne, sont présents. Ils sont pas simplement présents physiquement, mais ils sont présents moralement aussi. Ils sont présents à leur café ou à leur petit verre de blanc. Ils sont présents à la conversation qu'ils ont avec le patron. Ils sont présents au livre ou au journal qu'ils lisent sur le zinc, vous voyez. Mais imaginez que quelqu'un attende. Imaginez que ce soit un homme qui a un rendez-vous amoureux très important, parce qu'il est très amoureux, et il a rendez-vous à 15h30. il est là à 15h02 la veille, hein, pour être sûr de ne pas rentrer, rater le rendez-vous. Et puis, voilà qu'il est 15h10, 15h20, 15h30, 15h35, 15h40, et elle ne vient pas. Elle ne vient pas peut-être parce qu'il est très amoureux. N'avez-vous pas remarqué que les êtres dont on est très amoureux sont en retard, alors que les êtres dont on n'est pas plus du tout amoureux sont parfaitement à l'heure, hein? Si vous avez consenti un rendez-vous, non pas du fond du cœur, mais du bout des lèvres, à un collègue un peu lourd, bon, vous avez, c'est plus par politesse que par désir que vous avez accepté. Ah ouais, j'ai rendez-vous avec l'autre là. Pff. Oh, voilà, j'ai pas envie d'y aller. Celui qui aime le. C'est Flaubert qui disait en amour, il y en a toujours un qui souffre et un qui s'ennuie. C'est terrible comme description. Mais en fait, celui qui s'ennuie, c'est celui qui fait attendre. Celui qui souffre, c'est celui qui attend. C'est très souvent le plus amoureux. Hein. Quand on est très amoureux, on ne fait pas attendre. Quand on n'est pas très amoureux, on fait attendre. Voyez. Eh bien, en effet, celui qui attend, eh bien, n'est pas présent au présent. Il peut avoir un café, il peut avoir un verre de blanc. Ça n'a aucun goût. Si je suis seul, je ne vais pas boire mon vin tout seul. Puis même si je le bois tout seul, même s'il est très bon, un grand philosophe nommé Jean-Pierre Coff a eu une formule que j'ai trouvée magnifique après qu'il avait été hospitalisé dans un établissement de suite de soins, vous savez. Il s'était occupé de ce qu'on donnait à manger aux vieilles personnes et le problème, c'est que c'est pas bon, enfin quoi. Et il avait une formule magnifique, il avait dit le problème, c'est qu'on leur donne la béquée alors qu'il faudrait manger avec eux. Et cette formule est magnifique, le pain appelle le copain. Le pain appelle le copain. Le meilleur pain du monde, si vous êtes seul à le manger, il perd de tout son goût. Et donc ce vin blanc peut être très bon si je suis seul à le boire parce que j'attends celle qui ne vient pas. Bon, j'ouvre un livre pour essayer de ne pas montrer que j'attends, parce qu'il y a quelque chose d'un peu humiliant dans le fait d'être celui qui attend. Vous voyez, faire attendre, c'est un apanage de la puissance. Attendre, c'est un apanage de l'impuissance. D'où la formule, vous savez, l'exactitude et la politesse des rois. Parce que ça veut dire que quand on est roi, on peut se permettre de faire attendre sans que les autres vous en veuillent. Mais quand un roi décide d'être bien à l'heure, eh bien justement, il y a là la preuve d'une politesse. Hein. Et donc j'ouvre un journal parce que je ne veux pas me montrer. Et puis j'ai beau relire la même page trois fois, je n'arrive à graver aucun mot, vous voyez. Parce que je suis tout tendu vers la silhouette espérée. Hein. Quand on attend, on n'habite pas le présent. L'attente nous expatrie du présent, nous fait faire sécession avec le présent. L'attente ne donne au présent que la morne inconsistance d'un délai. Je me fais comprendre, hein? Quand on attend, le présent n'a que la morne inconsistance d'un délai. Parce que celui qui attend est tout tendu vers l'avenir et donc pas présent au présent, vous voyez. L'attente nous expatrie du présent, nous fait faire sécession vis-à-vis du présent, puisque le propre de l'attente est d'être uniquement attentive à ce qu'elle cherche et non pas à ce qu'elle trouve. Quand bien même on aurait un présent très riche, quand on attend, ce présent perd toute sa richesse, voyez. Autre manière de dire la même chose, un commissaire envoie ses hommes fouiller un appartement somptueux, où vous avez une bibliothèque fabuleuse, où vous avez une discothèque qui ne l'est pas moins, où vous avez des meubles admirables, où vous avez une cave avec des bouteilles à l'étiquette prometteuse. Et il envoie ses hommes pour chercher une pièce, un pistolet, je ne sais pas, ou un couteau. Ils fouillent tout l'appartement, ils ne trouvent pas le couteau. Qu'est-ce qu'ils vont dire au commissaire quand ils vont revenir? Il n'y a rien. Il n'y a rien parce que vous voyez, quand on ne trouve pas ce qu'on cherche, on a l'impression qu'il n'y a rien. J'ai l'impression que cet exemple n'a qu'un succès moyen. Si et voilà en effet pourquoi... celui qui attend n'habite pas le présent et donc n'habite pas bien le temps, hein, la plupart du temps, oui. Et justement, dans la salle d'attente, quand on ne sait pas combien de temps ça va durer, on peut avoir des beaux livres, mais on n'est pas présent, on n'est pas présent au présent. Hein. Et il est vrai que souvent on attend. Alors il y a des, vous voyez, j'ai rarement vu un patient qui, parce qu'il attend trop longtemps, s'en va. Comme s'il y avait quand même quelque chose comme un pouvoir médical, le pouvoir de faire attendre sans qu'on vous en veuille. Hein. Un patient qui est en retard au rendez-vous va se faire sans doute beaucoup plus engueuler qu'un médecin qui est retard au rendez-vous. Il y en a qui le font, d'autres même pas. Hein, même pas. Et alors voilà pourquoi, en effet, bien souvent, trop souvent, les patients habitent mal la temporalité parce qu'ils sont voués à l'attente. Deuxième personnage de la pièce, le soignant. Alors là aussi, trop souvent, les soignants ont l'impression de ne pas disposer de leur temps parce que leur temps est moins souvent, beaucoup plus rarement, un temps de l'attente qu'un temps de l'affairement. C'est l'enchaînement des tâches. C'est l'enchaînement des tâches qui donne l'impression qu'on n'a pas assez de temps. En plus, le sous-effectif fait qu'il arrive parfois que les soignants et les soignantes souffrent eux-mêmes, elles-mêmes, de ne pas avoir assez de temps. M'étais un petit peu occupé, il y a quelques années, du mouvement syndical, vous savez, des aides-soignantes qui travaillent en EHPAD. Ce qui m'avait plu dans ce mouvement syndical, qui avait ses justifications, hein, c'était que ça n'était pas uniquement un mouvement syndical corporatiste qui défendait les intérêts des aides-soignantes. Ces aides-soignantes se battaient aussi pour les vieilles et les vieux, hein, dont elles devaient s'occuper, parce que, par exemple, quand il faut enchaîner les toilettes extrêmement rapidement, eh ben on maltraite. Il faudrait, quand on fait une toilette, essayer de comprendre les points du corps qui ont mal, les points du corps qui ont bien, les points du corps où il y a de la honte, les points du corps où il y a de la pudeur, les points du corps où il y a de la fierté, voyez. Et une toilette, ça suppose en effet, une toilette bien faite, ça suppose beaucoup de temps. Or, on impose aux aides-soignantes d'enchaîner les toilettes. Et à ce moment-là, on maltraite sans le vouloir, voyez. Il m'a semblé que ces aides-soignantes avaient pour ces vieilles dames la colère qu'elles ne peuvent plus avoir. Hein. Eh bien, oui, le temps de l'affairement, depuis que le métier de soignant s'est technicisé, hein, et c'est une bonne chose, hein, qu'on ait des techniques. Depuis que le temps du soignant s'est technicisé, beaucoup de soignants et de soignantes ont l'impression de ne plus être maîtresses et maîtres de leur temps, parce qu'ils sont dans l'affairement, hein, dans l'affairement, dans la succession des tâches. Depuis que le soin se fait avec des techniques, avec des mécaniques, avec des protocoles, avec des procédures, il y a risque que le soignant ait l'impression de n'être qu'un rouage, qu'un moyen, voyez, qui est là pour enchaîner les protocoles, les procédures, les techniques et les mécaniques. Je ne suis pas contre les protocoles, je ne suis pas contre les procédures, je ne suis pas contre les techniques, je ne suis pas contre les mécaniques. Il en faut. Et heureux le patient qui va rencontrer un soignant, ça a été dit par nos collègues tout à l'heure, qui connaît bien son métier, hein, qui connaît les bons protocoles, les bonnes procédures, les bonnes techniques médicales, les bonnes mécaniques soignantes. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand on réduit le soin à un protocole, à une procédure, à une technique, à une mécanique. Et là, le patient a l'impression de ne pas être considéré pour ce qu'il est, voyez. Parce que je n'ai rien contre les protocoles, mais ce qui m'inquiète, c'est la protocolisation généralisée, la procédurisation généralisée, la technicisation, la mécanisation généralisée du soin. Et de cela, Jean Cocteau a donné un très très bon exemple dans le journal de La Belle et la Bête. Vous connaissez peut-être ce film prodigieux de Jean Cocteau qui s'appelle La Belle et la Bête. Vous connaissez peut-être La Belle et la Bête avec Walt Disney, c'est très bien aussi. Mais je vous invite à regarder le film de Cocteau. Et pendant que Cocteau tournait La Belle et la Bête, il est tombé très malade. Il a souffert à la fois d'un anthrax, d'un impétigo, d'un phlegmon et d'une trachéite. Ça fait beaucoup. Résultat, il est obligé d'arrêter le tournage du film. Il est hospitalisé à l'Hôtel Dieu, bon, hôpital parisien. Et il a quand même assez de force pour tenir son journal, et qui vient d'être édité aux éditions du Rocher. Ça s'appelle Jean Cocteau, journal de La Belle et la Bête. Eh bien, je crois que dans ce journal de Cocteau, il y a deux pages qui ne peuvent pas ne pas vous intéresser. La première page, c'est la page, si ma mémoire est bonne, du 5 septembre 1945, où Cocteau décrit ce que c'est que souffrir. Hein? Il dit « Il m'est arrivé de parler de la souffrance quand je ne la connaissais pas. Alors je pouvais la couler en belles images. Alors je pouvais poétiser. Alors je pouvais nervaliser. » Cocteau rend ici hommage à un poète du siècle d'avant, Gérard de Nerval, poète qui transformait la souffrance en beauté, voyez. C'est ça que souvent fait la poésie. Quand Nerval va très mal, il dit « Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. » Je crois pas que quand vous demandez à vos patients qui vont mal « Comment ça va ?»« Je suis le veuf, le ténébreux. » Non. Et Cocteau dit « Il m'est arrivé de parler de la souffrance quand je ne la connaissais pas. Alors je pouvais poétiser, nervaliser. » Mais souffrir, c'est tout autre chose. Souffrir, c'est ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n'importe qui, n'importe quoi, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. Et souvent, la langue qui nous reste quand on souffre vraiment, c'est la langue des bêtes, le cri, le gémissement ou le grand silence. Hein, le grand silence. Et à ce moment-là, Cocteau analyse l'expression « souffrir comme une bête ». D'autant plus qu'il est en train de tourner « La Belle et la Bête ». Et dans son délire de poète génial, il a l'impression que c'est Jean Marais, son copain, avec qui, à qui il a, qui était d'une beauté extraordinaire, à qui il a mis le masque hideux de la bête, qui est en train de le punir. Hein. Il faut que je sache ce que vit la bête. Et pour cela, il faut que je souffre comme une bête. Et étant donné qu'il a des furoncles partout, il ne peut plus se raser, donc il a de la barbe. Et quand il se regarde dans le miroir de l'Hôtel Dieu, il n'a pas l'impression de voir le visage d'un homme, mais la gueule d'une bête. Et c'est là qu'il a la formule « Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image ». Alors il souffre comme une bête, tourne la page, et il appelle évidemment. Et à l'époque, c'était des bonnes sœurs qui soignaient. Et voilà ce qu'il écrit. « Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs ne sont pas vraiment bonnes. Elle remplace la bonté par un mécanisme de bonté. On appelle, c'est un automate qui entre dans la chambre, la range et en sort. Les bonnes sœurs ne soignent pas le malade, elles soignent la chambre du malade, dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres. Toute attention à la singularité du cas du malade déréglerait le mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure. » Page géniale et je dirais encore plus actuelle en 2025 qu'en 1945, parce qu'à l'heure de la T2A, tarification de l'activité, c'est encore plus vrai, cette réduction du soin à des protocoles, des procédures, des techniques et des mécaniques. Voyez. Et comme le dit Cocteau, ce qui fait les frais de cette protocolisation, de cette procédurisation, de cette technicisation, de cette mécanisation du soin, c'est la singularité du cas du malade. Ce qui fait que c'est un être irremplaçable. Hein. Vous êtes unique. Le singulier, c'est le sans pareil, c'est l'unique, l'irremplaçable. Eh bien, trop souvent, les soignants et soignantes ont l'impression d'être dans l'affairement, c'est-à-dire l'enchaînement de tâches sans relâche, hein, qui s'enchaînent. Et on aimerait bien avoir le temps, parce qu'on sait que prendre le temps a déjà une fonction thérapeutique. Prendre vraiment le temps avec quelqu'un, c'est déjà l'aider à aller mieux. Eh bien, elles n'ont pas le temps. Deuxième personnage, hein. Alors, c'est aggravé évidemment par le sous-effectif, hein, quand on n'est pas assez nombreux, nombreuses. Il y a quelques endroits où on prend le temps encore. Moi, je dirais qu'en soins palliatifs, mais c'est un peu tard. Là, vous avez des gens qui prennent vraiment le temps d'écouter. Dans le cabinet du psychanalyse, quand c'est des psychanalystes consciencieux, là aussi, il y a vraiment un temps. Mais sinon, tous les soignants que j'ai eus comme étudiants et étudiantes, et ça fait bien longtemps, se plaignent tous du manque de temps, voyez, et ce manque du temps parfois, mais on est dans l'affairement. Donc deuxième façon de l'aliénation temporelle, hein, c'est pas l'attente, c'est l'affairement. On n'est pas maître de son temps quand on attend, on n'est pas non plus maître de son temps quand on est affairé, voyez. Et ça fomente en effet la fatigue dont je vous parlais, parfois une mauvaise fatigue, dont le burn-out est là. Hein, à force il y a une petite voix qui me dit mais arrête-toi, prends le temps. Mais je peux pas, j'enchaîne. Vous aurez remarqué que ce sont les soignants les plus consciencieux qui sont menacés par le burn-out. Les paresseux sont pas menacés par le burn-out, hein, pas du tout. Il faut pas confondre la paresse et la fatigue. La paresse est une espèce de fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux se lève le matin, que dis-je, le midi. Il n'est pas du tout fatigué, mais il ne va rien faire parce qu'il risque de l'être. Les plus feignants de la création, on a l'impression que ce qu'ils craignent, c'est pas la fatigue. Ce qu'ils craignent, c'est même pas la fatigue, c'est la possibilité de la fatigue. Voir la possibilité d'être fatigué. Alors oui, le soignant qui se réserve, qui s'économise, hein, qui n'est pas menacé par le burn-out, mais c'est un métier où il faut donner de soi, et parfois on donne trop, on n'est pas dans la générosité, mais dans la prodigalité. Hein. La générosité est la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité, disait Aristote. L'avare ne se donne pas assez, le prodigue se donne trop. Essayons d'être généreux. Généreux, ça veut dire se donner, mais parfois se garder. Hein. Oui, malheureusement, trop souvent, le soignant est dans une aliénation temporelle, puisque son temps, c'est le temps de l'affairement, hein, l'enchaînement des tâches, alors qu'il sait que pour être un bon soignant et pour continuer d'aimer son métier, il faudrait qu'il arrive à prendre son temps. À prendre le temps de prendre son temps. C'est la maxime de Philippe Noiret dans le film d'Yves Robert de 1968 qui s'appelle Alexandre le Bienheureux. Alexandre est un paysan qui est souvent très fatigué, il souffre de somnolence diurne, et il a une femme qui s'appelle La Grande qui le fait travailler toute la journée. Hein. Allez, il n'a jamais de temps pour lui. Hein. L'affairement. Quand il commence à piquer du nez sur son tracteur, elle lui dit « Alexandre !» Il faut aller biner les pommes de terre, il faut aller curer les écuries, il faut aller planter les choux. Même le soir, quand il se couche à côté de sa femme, espérant dormir, elle lui dit « Alexandre, réclamant ce qu'on n'ose plus aujourd'hui appeler le devoir conjugal. » Donc il est épuisé et à un moment, sa femme meurt dans un accident de voiture et vous avez tous les habitants du village qui défilent devant lui, comme il se passait dans les campagnes à l'époque, quand il y avait un enterrement. Et il y a quelqu'un qui demande à Alexandre « Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Alexandre ?» Et Noiret, dans le rôle d'Alexandre, répond avec sa voix de violoncelle, plutôt de basson,
« Dormir, dormir. »
Et alors il a une maxime tout à fait mitterrandienne,
« Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de prendre son temps. »
Mais qui le prend ? Qui le prend ? Ne vivons-nous pas une pathologie de la temporalité ? Si Sénèque revenait, qui disait que être libre, c'est être maître de son temps, il aurait l'impression que nous ne sommes pas libres. Hein ? Troisième personnage auquel je veux rendre hommage, même si l'hommage sera plus court, c'est le proche, ce qu'on appelle le proche aidant aujourd'hui, hein, bon, qui lui souvent oscille entre des moments où il est affairé et des moments où il attend. Moment à l'affairement, c'est quand c'est à lui de soigner, hein, la maladie est entrée dans la maison et il n'est plus maître de son temps parce que tout son temps est consacré au conjoint. Hein. Et même la nuit, par exemple, bah oui, non, je te jure que je ne te mettrai pas dans une maison. Bah oui, mais la nuit, il se réveille, il est perdu, il fait pipi par terre. Comment le sommeil ne serait-il pas affecté quand on est toujours sur le qui-vive, voyez ? Sa temporalité est toute dévouée à celle du proche, hein, à celle du malade. Hein, trop souvent, la temporalité du proche est toute dévouée à celle du malade. Hein, il a vraiment l'impression, en effet, de ne plus être maître de son temps. Et puis alors après, quand il passe le relais à des soignants, ben il se retrouve à côté de son patient dans une situation d'attente, parce qu'il attend avec elle, hein, les résultats, le rendez-vous. Bon. Et quand on oscille entre des temps où on est affairé et des temps où on attend, là encore, on souffre d'aliénation temporelle. Oui, il me semble que nous constatons trop souvent quelque chose comme une discordance des temporalités, hein, qui fait que les trois personnages dont je viens de vous raconter la vie quand elle est difficile, le patient, le soignant et le proche, eh bien, ne se comprennent pas. Ça forme les trois sommets d'un triangle qui ressemble au triangle des Bermudes. Quelque chose de la communication entre les êtres humains se perd, voyez, à cause de cette discordance. Que faudrait-il faire ? Parce qu'après, le diagnostic peut être un traitement. pour lutter contre cette aliénation temporelle. Déjà, le simple fait d'en prendre conscience et d'organiser une journée comme la vôtre est déjà mettre le pied sur le bon chemin. Mais il me semble ce qui serait important, ce qui serait bienvenu, c'est qu'on ait affaire à une sorte de médiateur, hein, qui essaierait de comprendre les trois points de vue. De manière à essayer de passer d'une discordance à une concordance des temps. Ce médiateur ou cette médiatrice, voyez, c'est quelqu'un qui essaierait de comprendre comment vivez-vous le temps, vous qui êtes patient, vous qui êtes soignant, vous qui êtes proche aidant, et qui raconterait la temporalité des deux autres au troisième. Je me fais comprendre, hein ? Et à ce moment-là, il y aurait une prise de conscience du fait que faire attendre quelqu'un, ça peut en effet le faire beaucoup souffrir, hein, qu'être affairé, hein, ah oui, parce qu'évidemment, cette discordance des temps fomente des tensions, des crises, des conflits, hein. C'est insupportable, j'attends depuis 2 heures, j'avais rendez-vous, on ne me considère pas, j'arrive aux urgences, normalement aux urgences on doit s'occuper vite de vous, et puis on ne s'occupe pas de vous. Bon. Et on s'en prend à la personne qui est là, c'est-à-dire l'infirmière, vous vous occupez, mais comment voulez-vous, elle ne peut pas. Son affairement fait qu'elle ne peut pas prendre le temps de considérer le temps de celui qui attend. Et créer une concordance des temps, pour moi, ça veut dire être à la manière de Jean-Sébastien Bach, un contrapuntiste. Le contrepoint, c'était ce qu'en musique on enseignait au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est l'art de... Alors, vous avez trois musiciens qui ne jouent pas la même chose. Mais le contrapuntiste, il n'est pas au même rythme. Hein. Il ne joue pas au même rythme. Vous avez une flûte, vous avez un violoncelle et vous avez un clavecin. Leurs partitions sont différentes. L'un enchaîne des doubles croches, ça va très vite. L'autre uniquement des rondes. Mais l'art du contrepoint, c'est l'art de faire chanter ensemble des gens qui ne chantent pas la même chose. Voyez, c'est l'art de créer une concordance dans les tempi alors qu'ils n'ont pas tous le même tempo. Et il me semble en effet que un médiateur ou une médiatrice pourrait justement parler au troisième du temps des deux autres, parce que je crois que, comme le disait Kant, comment faire pour remédier au conflit qu'il y a entre les êtres humains, hein, parce que cette discordance des temps fomente des conflits, des agressivités parfois. Hein. Bon, eh bien, comment faire pour remédier aux conflits entre les hommes, en sachant qu'il y aura toujours des conflits entre les hommes, hein. Eh bien, Kant nous donne le conseil suivant, les hommes seraient moins en conflit les uns avec les autres qu'ils ne le sont, s'ils avaient la force de pratiquer l'exercice de leur pensée élargie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer l'exercice de sa pensée élargie ? Même Johnny Hallyday aurait compris que ça veut dire qu'il faut élargir sa pensée. Johnny Hallyday passait pour un peu besogneux de la comprenette. En même temps, non, il n'était pas si bête que ça. Bon, j'aime beaucoup ce que Fabrice Lucchini dit régulièrement de Johnny Hallyday. Vous savez, quand il dit de Johnny Hallyday, ce qu'il y avait de prodigieux sur Johnny Hallyday, c'est qu'il revisitait les évidences. C'était énorme. Et en effet, Johnny a dit des choses extraordinaires. Il a dit une fois, finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. Ben oui. Et surtout, on se souvient de ce moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité où Johnny Hallyday court le Paris-Dakar et la voiture est immobilisée parce qu'elle a un problème technique dans le désert assez longtemps. Il faut du temps pour la réparer. Finalement, la voiture arrive très tard au poste d'arrivée. Les gens se précipitent. Johnny baisse la vitre et il a eu ce mot d'anthologie. Tu te rends compte que ça n'avait pas été arrêté une heure et quart ? Il y a une heure et quart qu'on serait là. Ouais. Mais vous savez, quand le premier des grands philosophes, qui s'appelle Parménide, commence son poème en disant « L'être est, le néant n'est pas », tous les philosophes se prosternent en disant « C'est génial ». En fait, c'est pas plus profond que... Enfin, Johnny aurait pu le trouver. Bref, j'aimais bien Johnny. Mais élargir sa pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, élargir sa pensée ? Ça veut dire essayer de voir la réalité d'un autre point de vue que le sien spontané. Hein ? Quand on est patient qui attend, essayez de se demander, mais lui, le soignant, qui me fait attendre ? Qu'est-ce qu'il vit ? Hein ? Que chacun des deux essaie de voir la réalité du point de vue, que chacun des trois essaie de voir la réalité du point de vue des deux autres. Et là viendrait une sorte de compréhension, voyez ? Parce que la violence n'a pas d'autre origine que cette façon que nous avons de nous enraciner dans notre point de vue sur les choses, voyez ? Prenons un exemple de conflit dramatique, épouvantable. Le conflit israélo-palestinien. Je suis sûr que si les plus radicaux des Palestiniens essayaient de voir la réalité du point de vue des Israéliens, s'ils se disaient par exemple, quand même ce peuple, depuis 3500 ans, a souffert comme aucun peuple. Hein. À chaque fois que les Juifs sont dans un pays et que ça semble bien s'arranger, ils sont bien accueillis et ça recommence encore des pogroms. Hein. Il y avait une interpénétration entre la culture juive et la culture allemande qui était extraordinaire au 19e siècle, 20e siècle. Les Juifs se disaient, on est bien en Allemagne. Solution finale, épouvantable. Et ce peuple, ça fait 3500 ans qu'ils disent, l'année prochaine, peut-être à Jérusalem, est-ce qu'il y aura enfin un lieu où on sera chez nous, dont on ne nous chassera pas ? Donc, si les Palestiniens les plus radicaux disaient, mais après tout, on peut comprendre qu'ils aient une terre à eux. Mais j'aimerais aussi que les Israéliens les plus radicaux essaient de voir la réalité du point de vue palestinien, vous voyez, et se disent, mais tiens, ils étaient là avant nous, et est-ce qu'on peut comprendre ce sentiment, vous voyez ? Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Juifs qui essaient de voir la réalité du point de vue palestinien, et pas beaucoup de Palestiniens qui essaient de la voir du point de vue juif. Bon, c'est un exemple dramatique, mais en effet, les conflits entre les êtres humains à l'intérieur de l'hôpital peuvent résulter d'une discordance des temps ignorée, inconnue, dont on ne parle pas. Le simple fait de prendre conscience de ces discordances, le simple fait que qu'à chacun des trois, on raconte un peu la temporalité des deux autres. Hein. Ne vous en prenez pas. Vous souffrez d'aliénation temporelle parce que vous attendez. Ne vous en prenez pas à celui qui vous fait attendre. Il ne peut pas faire autrement. Hein? Et il me semble que simplement, quand on est très fatigué, c'est difficile de voir la réalité d'un autre point de vue que le sien, voyez. Quand on souffre, la souffrance, c'est l'assignation à soi. Quand on va mal, quand on est fatigué, il faut être en forme, voyez. Il faut être en forme, aller assez bien pour se dire, tiens, quelle est la façon que l'autre a de vivre. Et en effet, alors je termine, un beau matin de mai, quand vous êtes en pleine forme, et que vous rencontrez un patient gratifiant, oui, là, je pense que vous n'avez pas trop de difficultés à sortir de vous-même, hein, à vous oublier et à essayer de considérer le temps de l'autre. Quand vous êtes très fatigué, épuisé, un triste après-midi pluvieux de novembre, c'est beaucoup plus difficile, voyez, de faire cette gymnastique. On a fait un peu de gymnastique, j'ai trouvé ce moment absolument magnifique. Mais justement, quand on allait mal, c'est souvent s'enquister, s'enraciner dans son point de vue sur les choses, hein, se durcir. Eh bien, pour passer de la discordance des temps à la concordance des temps, il faudrait qu'un contrapartiste, un médiateur, n'est-ce pas, aille aux trois points du triangle pour expliquer la temporalité des autres et se rendons compte qu'on est tous aliénés temporellement, hein, nous rendons compte, réalisant que l'Occident moderne, c'est peut-être le lieu où il n'y a jamais eu autant ce sentiment qu'on n'est pas maître de son temps, hein, eh bien peut-être que nous pourrions créer quelque chose comme un syndicat des aliénés pour essayer de réinventer un monde où chacun des trois personnages
aurait le temps de prendre son temps.
Voilà, merci beaucoup de votre attention.